Bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette nouvelle émission Livre en Lutte. Aujourd'hui, on va bientôt accueillir Trantonia, qui est une ancienne résistante du maquis du Sud-Vietnam, qui s'est impliquée dans l'aide aux victimes de l'agent Orange en créant des structures d'accueil, qui poursuit les compagnies chimiques depuis une douzaine d'années, et qui a publié son parcours dans « Ma terre empoisonnée ». Donc, elle est pour l'instant coincée dans les bouchons, donc on va l'attendre. Et pour l'instant, je vais commencer cette émission par la fin, je vais commencer par la fin. Moi, j'aime bien terminer mes émissions avec en parlant d'un roman noir. Là, j'ai l'impression qu'en plus, on a un petit problème de son. Donc, excusez-moi, on a un petit problème de son, et donc moi je vais commencer par parler d'un roman, d'un polar. Donc il y en a à peu près une cinquantaine, moi j'en ai compté 49 sur ce thème du Vietnam. Moi j'ai retenu la ligne de fuite de Robert Stone. Alors j'ai un petit souci de son. Oui, donc j'ai un petit souci de son, ça y est, ok. Donc Robert Stone. Donc ça se passe, c'est l'histoire d'un journaliste qui prend un paquet d'héroïne et qui va amener ça aux États-Unis. Donc il se fait attraper par des policiers, c'est un espèce de road movie. Et donc on quitte le Nord-Vietnam, on arrive à San Francisco, on passe à Berkeley, la fac qui aurait été un haut lieu de l'activisme. On avait même envoyé l'armée l'occuper en 1966. La fac dans laquelle avait commencé aussi Jerry Rabin, l'auteur de Do It, qui était un excellent bouquin, mais qui deviendra un entrepreneur, qui deviendra républicain et même un régalien fervent. On passe par Laurel Canyon dans ce roman où vécurent Neil Young, Steele, Crosby, Nash, Johnny Mitchell, Zappa, Hendrix, etc., Canadite. Et puis on y parle donc beaucoup de drogue. Sont cités aussi Bob Dylan et le Creedence, et puis Robert Crumb, et puis le journal New Messies. Et en arrière-plan, on a cet échec de la contre-culture américaine. Je dis échec effectivement parce que donc on a beaucoup de décès. On a Kennedy qui est assassiné en 63, Martin Luther King en 68. On a Brian Jones, Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ou Kerouac qui meurt de 69 à 71. Et puis il va se passer deux choses. On a en 69 les quatre membres de la famille de Charles Manson qui assassinent Sharon Tate enceinte de 8 mois et 4 de ses amis. Et puis il y a toujours en 69 le fameux concert gratuit des Rolling Stones à Altamont, où ils avaient confié donc la sécurité aux Hells Angels. Pas très bonne idée, donc il y aura un mort, comme au hasard, un noir. Donc il y a ça, et puis cette contre-culture donc, qui se scinde entre deux courants. On a cette espèce de nouvelle gauche, et puis donc ceux qui croient au système électoraliste, on va dire. Et puis on a aussi ceux qui n'y croient pas et ceux qui vont créer en fait, grosso modo, pour le dire rapidement, la Silicon Valley, avec ce côté, on va s'épanouir dans l'entrepreneuriat, et puis on arrive avec les GAFAM, hein, cette espèce de contre-pouvoir, ce nouveau pouvoir hyper puissant, qui ne paie pas d'impôts d'ailleurs, etc. Donc, l'entrepreneuriat et l'entreprise comme un parcours d'accomplissement de soi, pourquoi pas. Et puis, cette contre-culture qui voit aussi pas mal de personnes changer de qui vont retourner leur veste, hein, des gens dits de gauche qui vont... J'ai cité l'auteur de Dewitt. Il y a pas mal donc qui vont un peu trahir leur cause. Et donc, on va commencer par se passer un petit morceau de musique. Donc, au niveau des illustrations sonores, effectivement, il y a de quoi faire. Ce qu'il y a, c'est que bien souvent on se retrouve à écouter la bande son des films américains sur le Vietnam, donc c'est pas terrible, et pourtant c'était souvent des chants, on va dire, anti-patriotiques. Alors on terminera l'émission là. J'ai passé un album, une chanson du Creedence. Je voulais signaler un album qui s'appelle Stop the War. Donc, c'est un CD en 23 titres. C'est uniquement le Vietnam, vu par les Afro-Américains, que des titres de 65 à 74. C'est absolument excellent. Il y a des lectures de lettres, il y a pas mal de choses. Et nous, on va se passer le Creedence. Alors, c'est Fortunate Song. Fortunate Song, donc, son, pardon, c'est les enfants des riches qui arrivaient à éviter de partir au Vietnam.
La guerre résonne sans fin, ne tuons plus personne, ne tuons plus.
I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said. And tell my father that I'm way over here, crawling in these trench holes covered with blood. But one thing that I know, there's no tomorrow. To help me sing this hymn number 5, I want you to moan one time. Sometimes I wonder what was it that I did. I tried to be a good father. I did the best that I could, and I wonder who gonna take care of my kids. I'm a long way from home, children, but I want the world to know the one thing that I did. I'm gone for
on va commencer à parler de Madame Trintonia, donc, qui est née en 1942. Alors, son livre n'est pas du tout basé sur la haine. Elle n'est pas du tout dogmatique non plus. Hein. Elle a bien dit qu'elle n'était pas, qu'elle n'était pas communiste. Elle l'a redit d'ailleurs dans une interview dans l'Humanité du 2 mai de cette année. Donc, c'est toute sa famille, en fait, qui était impliquée. En 51, ah, je crois que la voici, je vais vous remettre une petite musique, le temps d'aller la chercher.
Don't let your eyes get you looking at all the places we used to go. Times we've had together, and that I'll be home. I'll be home. I'll be home after a while. Now don't let heartaches catch you crying. Don't let your tears drown out your smile. Just think of all the good times we've had together. Just got 9 more months to do, baby. When I get out, I'm coming straight home to you.
Voilà, et bien écoutez, Trintonia est dans les studios. Donc j'avais commencé à parler du livre. Je disais, Tran, que en fait, la résistance dans votre famille, elle commence assez tôt. Et il y a une. Vous commencez par. Installer une imprimerie clandestine dans la maison familiale.
Hein? Oui, j'ai... Tout d'abord, bonjour et merci oui. De me faire venir ici puis répondre à vos questions. Pour parler du livre et puis de ma vie, je pense que tout d'abord, que j'ai de la chance d'avoir des parents qui étaient des patriotes, qui aiment beaucoup leur pays et qui m'ont fait aimer aussi mon pays, ma patrie, mon pays natal, le Vietnam. Alors c'est pour ça qu'à l'âge de 8 ans, ma mère a déjà commencé à me confier la mission d'être agente de liaison dans Saigon. La Saigon était quand même occupée par l'armée française. On était à la période de la guerre coloniale. Alors c'est comme ça que j'ai vécu aussi toutes les activités clandestines de mes parents, comme quoi l'imprimerie au plafond, au-dessus de notre maison. Ou bien après, j'ai fréquenté aussi les prisons, parce que finalement, mon beau-père était capturé, et ma mère a aussi participé à toutes les activités pour la résistante.
Alors, dans votre livre, il y a quand même un côté, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure en commençant cette émission sans vous, il n'y a pas de haine. il n'y a pas de goût de vengeance, enfin. Et puis, il n'y a pas de dogmatisme. Vous l'avez dit dans le livre, vous l'avez redit, je crois, dans une interview de Luma, vous n'êtes pas au départ dogmatique et communiste. D'ailleurs, on pourrait en parler, les cadres communistes, après la libération, ont fait des choses n'ont pas été très délicats avec le peuple vietnamien, et vous en avez souffert vous-même. Et vous écrivez dans le livre, à un moment, nous ne nous battons pas contre le peuple de France, mais contre l'occupation, contre le colonialisme.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'haine dans ma vie. C'est parce que si on porte une haine, c'est plutôt faire du mal à son âme, à son cœur, quoi. Et ma mère m'a toujours expliqué que si on mène un combat contre la guerre coloniale, c'est parce que la liberté, le bonheur de notre peuple était menacé. Mais ceux qui menaient la guerre, c'était pas le peuple français. Ou bien après, avec la guerre contre l'armée américaine aussi, c'était pas le peuple américain qui mène la guerre. Donc c'est pour ça que j'étais toujours éduquée pour que bien comprendre que les peuples du monde entier sont amis. La guerre, c'est plutôt été menée par ceux qui ont leur intérêt à vendre les armes, etc. Et puis après, quand je participais aussi à la résistance, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes, de mes amis, de mes camarades, de la population qui étaient tombés ou bien sur le champ de bataille, ou bien qui étaient tués comme ça par des bombes, par les obus, par les tiraillements, etc. Donc, la guerre fait beaucoup de victimes, mais ceux qui sèment la guerre, ils sèment la mort, et ce sont eux, le criminel, mais pas le peuple. Alors pourquoi je porte rancœur, ou bien je porte une haine contre les peuples? Alors c'est pour ça que quand je vis ici en France, par exemple, je suis très bien parce que je suis entourée aussi de mes amis français. Et même quand je parle dans le livre de la disparition et puis après de la mort de ma mère qui était torturée par un Américain qui l'a torturée et que ma mère était ensevelie vivante, tuée par les Américains puis par les soldats de l'armée du Sud. Moi, je vois qu'eux aussi sont victimes, et c'est le tortionnaire qui a torturé ma mère, lui aussi, il s'est suicidé par remords, quoi. Donc, eux aussi, ils sont victimes, même s'ils sont tortionnaires.
Et donc, il faut rappeler...
Un peu plus fort, je vous entends mal.
D'accord. Donc, il faut rappeler... Je vais mettre un petit peu plus de micro. Il faut rappeler que, donc en 54, il y a une conférence de Genève qui coupe le pays en deux. Il était prévu un référendum au plus tard pour juillet 56 pour une éventuelle réunification. La consultation, évidemment, n'aura jamais lieu. Et donc, on a cette République du Sud-Vietnam qui est alliée des États-Unis. Et donc, vous, à 18 ans, vous rejoignez l'Union de la Jeunesse du Vietnam. Vous écrivez plus pour une affaire de relations humaines que pour qu'une question d'idéologie. Vous avez écrit, au fond, je ne suis pas communiste, j'aime le peuple, la solidarité, mais pas l'endoctrinement, ni la haine de l'autre. Alors, la plupart de votre famille est engagée dans la lutte. Votre sœur a été la première speakerine en français et en anglais sur Radio Libération. Et en septembre 65, vous recevez un ordre de mission pour le front au Sud-Vietnam.
Il faut dire que les Vietnamiens, le peuple vietnamien n'aime pas la guerre parce qu'on a subi des millénaires de guerre venant du nord, de la Chine, et puis après la guerre coloniale, et puis après la guerre américaine, par exemple. Donc c'est le peuple vietnamien qui subit toujours les guerres. Alors, pourquoi on aime la guerre? On n'aime pas la guerre. On aime la paix. Et avec la première fois qu'il y a une audience de mise en état de mon procès, alors la partie adverse m'a dit qu'il faut annuler le procès parce que Madame Tran se dit combattante. Je vous parle tout de suite de ça parce que après il y a un proverbe vietnamien qui dit que quand l'ennemi souille le territoire, alors chaque femme devient une combattante, même la femme devient une combattante. Et je pense que si nous les Vietnamiens et vous les Français, on se comprend très très bien, c'est parce que les Français aussi se comportent de telle façon quand pendant la guerre, la deuxième guerre, quand il y a les Allemands l'armée allemande qui était ici, donc il y avait tout de suite la résistance. Alors dans chaque pays, on ne veut que l'indépendance, on ne veut que la liberté. Donc, quand l'indépendance est menacée, bien sûr, la population devrait aussi se battre pour se défendre, pour avoir cette liberté, cette indépendance. Alors, c'est pour ça que ma grand-mère, mes grands-parents se sont sacrifiés, ma mère s'est sacrifiée, et nous aussi dans la famille, frères et sœurs, on se donnait aussi pour l'indépendance, pour la liberté du peuple, pas plus. Hein. Pour moi, il n'y a pas une autre idéologie que la liberté et puis le bonheur du peuple.
D'accord. Alors, le bonheur du peuple, il va être rendu un peu plus difficile à cause de l'agent Orange. Sur la couverture du livre, on voit une photo où vous avez un casque de soldat américain sur la tête. Ça a été pris sur le lieu de la bataille de Junction City en 67. Mais il se passe un truc en 66. Vous subissez un épandage d'agent Orange, ce défoliant que les Américains versaient sur les forêts pour que les maquisards ne puissent plus se cacher. Et là, c'est une autre période qui s'ouvre, puisque les personnes qui ont été en contact avec l'agent Orange vont tomber malades, et surtout, ils vont faire des enfants qui, soit eux-mêmes seront malades, soit qui auront l'air en bonne santé, mais qui feront des enfants qui naîtront, encore une fois, à la troisième génération, avec des infirmités. Donc vous tombez enceinte en 67, et ça va se passer pas très bien.
Tout d'abord, on parle du casque. Moi, je suis très contente d'avoir cette photo.
Oui.
Parce que cette casque-là, je l'ai ramassée lors du passage des tanks américains. Donc, mais j'ai survécu à cette campagne-là. Et puis après, j'ai ramassé ce casque-là. Et mes amis ne voulaient pas prendre cette photo. Mais j'ai insisté parce que moi, je m'amusais avec ça. Et ce qui est un peu rigolo, c'est qu'après, cette photo avec ce casque américain s'est servi de couverture du livre et ça part dans le monde entier. Alors c'est Madame Tran qui a le casque américain et maintenant qui se bat contre les firmes américaines qui ont semé la mort, qui ont semé le désastre à la population vietnamienne, quoi. Alors, pour l'agent orange, moi-même, j'ai perdu ma première fille parce qu'elle était née avec une malformation très, très grave du cœur. Et puis maintenant, mes deux autres filles aussi, elles portent aussi des malades génétiques. Mais je peux vous dire que nous, on a de la chance parce que de l'extérieur, on ne voit pas qu'on est malade, mais n'empêche que de l'intérieur, on souffre aussi de plusieurs pathologies, quoi. La première génération des victimes de l'agent orange, ils ne peuvent pas éviter les maladies, mais ils ne sont pas handicapés. mais ils sont très malades. Et jusqu'à présent, presque les gens de la première génération sont morts, quoi, sont décédés. Et le reste, ceux qui restent sont très très malades. Alors que à partir de la deuxième génération, alors ils portent, les enfants portent toujours des maladies génétiques, mais souvent ils sont handicapés. Mes filles, mes enfants ont de la chance qu'ils ne sont pas handicapés de l'extérieur, quoi, physiquement, mais ils sont toujours très malades.
Alors, il faut rappeler en fait que l'agent orange, donc cet herbicide, on a au total 80 millions de litres de produits chimiques qui ont été déversés par l'armée nord-américaine, dont 61% d'agent orange. Et on a appelé ça le plus grand écocide du XXe siècle, qui a détruit entre 61 et 66 plus de 40% des terres arables et plus de 40% de la surface forestière totale du sud du Vietnam. Donc, vous avez commencé par créer, je crois, des structures pour accueillir au Vietnam les enfants qui souffraient de maladies.
Tout d'abord, on ne pensait pas aux séquelles des défoliants. Parce que moi-même, en tant que chimiste, et puis je peux vous faire une autre parenthèse, j'étais formée pour être chimiste. Je ne me suis jamais servi de mes connaissances en la chimie. Et puis maintenant, je me bats contre la guerre chimique. La guerre chimique. Bon, mais c'est le hasard de la vie qui me mène dans ce chemin. Mais pour tout le Vietnam maintenant, là, les séquelles de l'agent orange sont atroces. Et ça n'arrêterait pas. Avant, on pensait que peut-être après 20 ans, après la guerre, les séquelles de l'agent orange se termineront, mais non. On est déjà presque à la 50e année après la guerre. Il y a toujours des victimes de l'agent orange qui subissent leur sort. Désastreux, quoi. Quand j'ai commencé le procès, c'est-à-dire il y a 10 ans, et on n'avait que 3 millions de victimes. Et après ces 10 années de procédure, aujourd'hui, on arrive à presque 5 millions de victimes. C'est-à-dire que pendant ces 10 années de combat, au Vietnam, il y a 2 millions de victimes de plus, sans parler des victimes dans les autres pays dont on ne parle jamais. Mais ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'il n'y a pas de victimes.
C'est-à-dire au Laos, au Cambodge
Mais je parle au Cambodge, au Laos, mais je parle même aux États-Unis.
D'accord.
Parce que quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai rencontré une de ces victimes-là, j'ai vu que les souffrances sont les mêmes, quoi. Les souffrances sont les mêmes, les malheurs sont les mêmes, et on arrive à se comprendre. Et quand je les ai quittées, je suis encore plus déterminée à me battre pour demander justice, non seulement pour les victimes de l'agent orange, mais pour toutes les victimes de l'agent du Vietnam, mais pour toutes les victimes de l'agent orange dans le monde entier. Et heureusement que maintenant, en se basant sur mon combat, il y a d'autres combats contre les pesticides, la chlordécone, les OGM dans le monde entier.
Donc, avant de créer, donc la structure que vous avez créée s'appelle le village de l'amitié au Vietnam, c'est ça?
Non, il n'y a pas que le village de l'amitié. Il y en a d'autres parce que dans tout le Vietnam, il y a beaucoup de villages d'amitié. Et il y a beaucoup de centres d'accueil pour les victimes de l'agent orange gérés par une association qu'on appelle l'Association des victimes de l'agent orange du Vietnam. Donc il y a partout des qu'on appelle le VAVA. Donc dans tout le Vietnam, il y a les VAVA locales, il y a VAVA national qui s'occupe des victimes de l'agent orange, parce que actuellement dans tout le Vietnam il y a des victimes, hein. Il n'y a pas que dans le sud, parce que les combattants qui revenaient des combats, ils se dispersent dans leur village, et c'est comme ça que ils ont mis au monde aussi des victimes, quoi. Donc aujourd'hui, il y a 5 millions de victimes dans tout le Vietnam. Il y a aussi des milliers de victimes aux États-Unis, en Philippines, en Corée, etc. Ouais.
D'accord.
Me bats pour eux.
Une sorte de diaspora de Vietnamiens qui souffrent encore de l'agent orange, eux ou leurs enfants, en fait, et qui existent dans le monde entier, quoi.
Oui.
Est-ce que vous... Alors, on n'a pas préparé ce truc. Yen Bai, est-ce que vous connaissez l'association Yen Bai?
L'association Yen Bai, AFV, c'est géré par Gérard Davio. Monsieur Davio, il part assez souvent là-bas. Et ils ont aussi un programme pour venir en aide aux victimes de l'agent orange de Yen Bai. Oui. Mais moi, je me concentre pas sur une région, mais quand, et grâce à la générosité des donateurs, non seulement de France, mais d'autres pays aussi, alors quand je rentre dans mon pays, je vais dans chaque région. Mais mon principe, à moi, c'est de vérifier tout d'abord la générosité, la compétence des responsables de la région. Et c'est seulement quand je vois qu'ils sont bien, les dirigeants sont bien, les responsables sont bien, que je décide de venir en aide, parce qu'un centime reçu de France ou bien d'autres pays est quand même un centime qui est très précieux, qu'il faut donner directement aux victimes. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi... l'association des victimes de l'agent orange, où il y a beaucoup de donateurs donnent, mais il y a aussi des gens comme moi qui représentent la générosité mondiale, parce que actuellement je reçois plusieurs dons de plusieurs personnes, de plusieurs associations de France, de Suisse, de Belgique par exemple, et puis dans d'autres pays. Alors, mais on fait ce qu'on peut, comme on peut, quoi, pour alléger, soulager un peu la souffrance des victimes de l'agent orange, parce qu'on sait que les victimes de l'agent orange sont les gens qui souffrent le plus, sont les gens qui vivent misérablement parmi les plus misérables, vous voyez ? Donc, ce sont les plus malheureux, quoi. Il faut venir en aide.
Donc il y a la pauvreté qui peut se rajouter au problème de la maladie, en fait. Et les plus pauvres seraient les moins même
Oui, parce que là, les maladies mentales, c'est affreuse. Et vous savez que chaque victime, même handicapée de jambes ou bien handicapée physiquement, mais ils ont aussi un problème mental, tout. Alors c'est pour ça que quand j'organise des classes de formation de métier pour les victimes de l'agent orange, c'est 100 fois plus dur qu'une classe normale, parce que même par exemple pour une classe de couture, si j'arrive à avoir de l'argent pour organiser une classe pour 10 personnes par exemple, mais si après 3 mois ou bien 4 mois une personne arrive à connaître un tout petit peu le métier, c'est déjà une réussite, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup de générosité pour venir en aide aux victimes de l'agent orange. Et ils nous attendent toujours.
Et j'avais lu que le village de l'amitié avait été aussi créé au départ avec l'initiative d'un vétéran américain de la guerre du Vietnam, Georges Mizot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop parce que je venais pas souvent au village de l'amitié, sauf que récemment, monsieur le ministre d'État de Belgique, monsieur André Flahaut, celui qui était l'instigateur de la résolution transpartisane pour venir en aide aux victimes de l'agent orange, il a rendu visite au village de au village Van Kain. Et c'est nous qui avions acheté une machine à laver pour que M. André Flahaut remette en notre nom, par exemple, au village Amitié.
D'accord. Donc il faut expliquer ces structures. Effectivement, il y a des cours adaptés ou d'enseignement général avec des apprentissages de petits métiers manuels, couture ou broderie, ou parfois des cours d'informatique, pour permettre aux personnes, je pense, qui sont les moins gravement atteintes, de pouvoir un peu se réinsérer. Et on va parler maintenant aussi de... Il faut expliquer que vous avez été proviseur d'un établissement de 500 élèves, donc pour ce qui est de l'éducation, effectivement, vous connaissez ça, vous avez été enseignante et vous avez dirigé un établissement.
T'entends pas bien.
Donc je disais que vous avez été proviseur d'un établissement de 500 élèves. Vous avez été dans l'enseignement après la guerre du Vietnam.
Moi, j'étais... Vous savez qu'au Vietnam, là, il n'y a pas d'école à 500. Hein. À
non.
5000.
À 5000.
À 3000, 5000. Mais c'est normal. Mmh. J'étais directrice, par exemple, de l'école du lycée Marie Curie. Alors, à un moment donné, j'avais 5000 élèves. Enfin, sinon, normalement, j'ai de 3000 à 4000 élèves, c'est très normal. Ouais. C'est pas comme ici. Alors, une classe doit accepter 50 élèves.
D'accord.
Alors, le professeur doit se servir à la fin de la micro pour enseigner. Oui.
Donc, vous avez commencé, il y a une douzaine d'années, à des procès contre Monsanto et les différents laboratoires qui ont créé ces produits chimiques. Ça a commencé, vous avez commencé ça en France, uniquement, ces procès contre Monsanto et les laboratoires.
Oui, ce procès, comme dit Maître William Bourdon, est un procès unique, historique et politique, et qui ne peut se faire qu'en France, parce que c'est uniquement en France qu'il y a une loi permettant aux avocats français de défendre, de faire des procès multinationaux pour défendre les citoyens français. Voilà, donc c'est déjà une condition sine qua non. Alors, pour pouvoir faire ce procès, il faut quand même le plaignant, bien la plaignante soit français, de condition. Et comme c'est une procédure contre l'agent orange, il faudrait que le plaignant ou la plaignante soit victime de l'agent orange. Et jusqu'à présent, il n'y a que moi qui rassemble ces trois conditions. Et je remercie quand même la France qui m'a donné la possibilité de me battre pour réclamer justice, pour, non seulement pour moi, pour mes enfants, mais aussi pour les victimes du Vietnam et du monde entier.
Alors, ça a demandé beaucoup d'étapes. Vous me reprenez si je me trompe, mais moi j'avais compris que vous aviez fondé une agence de voyage dans les années 80, pour pouvoir obtenir l'autorisation de sortie du territoire national. Première visite en France dans les années 90, il a fallu attendre, je crois, 2002 pour que vous ayez la double nationalité, c'est ça ?
C'est une autre histoire qui est aussi longue.
Oui.
Parce que avant, j'ai pris ma retraite, mmh, et je me suis lancée dans les activités humanitaires. Pour commencer, c'est l'adoption des orphelins. Et pour avoir de l'argent, pour payer les frais, etc., j'ai créé une agence de voyage Et avec et c'est comme ça que pour promouvoir la clientèle française et d'autres pays, alors j'ai demandé le visa qui était très très dur à obtenir quand même à cette époque là et j'étais venue en France. C'est comme ça que ça a commencé, tout d'abord pour le tourisme, et j'ai fait connaissance aussi avec des médecins, et puis après avec les anciens combattants de l'ANAPI, Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine. Et bon, mais le fil à aiguille avec les activités, on est arrivé jusqu'à ce jour, quoi. Donc c'est le gouvernement français qui m'a décerné de la Légion d'honneur. On commençait à me connaître, et c'est comme ça que bon, mais j'ai comme dit notre avocat, c'est même et j'aime bien cette expression, c'est le vent de l'histoire qui m'a mis dans ce chemin de combat pour demander justice pour les victimes de l'agent orange. Donc j'ai commencé en 2009, et depuis 2009 jusqu'à présent, on n'a pas arrêté.
Donc il y a une actualité. L'an dernier, donc, il y a eu un premier procès perdu. Cette année, vous êtes revenu vers le 7 mai en appel pour un second procès. Je crois qu'on attend un rendu pour le 22 août.
Oui, le verdict serait le 22 août. Mais de toutes les façons, ou bien si le tribunal juge que le tribunal de grande instance est dévré à tort, tout mon dossier doit retourner à Évry, et je dois encore, je ne sais pas, sacrifier encore je ne sais pas combien d'années de ma vie pour Évry. Mais si c'est ainsi, il y a une autre chose assez historique, c'est que le palais de justice de Paris reconnaît reconnaît que les criminels, quoi qu'ils soient, s'ils sont très forts, ils sont très riches, mais ils ne peuvent pas éviter la justice. Donc ça vaut si c'est ainsi, ça vaut la peine que je continue mon combat en retournant à Évry. Mais de toutes les façons, je suis prête, parce que si le tribunal juge que Évry n'a pas tort, alors on va faire appel et puis on va à la cassation. De toutes les façons, je dois continuer jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'on ne va pas s'arrêter. Donc, de toute façon, on va aller jusqu'à la cassation. Bon. Et je suis prête. Ouais.
On a bien compris que vous n'abandonnerez jamais. Et ce qui est marquant, c'est que à lire votre livre, donc Ma terre empoisonnée, on voit toutes les étapes de l'engagement de votre famille dans la résistance, puis vous-même dans les maquis. Après-guerre, c'est pas facile, il faut se reconstruire une vie. Avec bon, il y avait votre famille avait une pâtisserie, mais avec le gouvernement communiste, ça devient une activité un peu bourgeoise. On vous autorise pas à remonter cette pâtisserie qui servait pourtant aussi, qui avait un intérêt dans la résistance. Et il y a beaucoup beaucoup d'étapes pour vous reconstruire après-guerre, pour monter ces associations, pour monter ces procès. Il y a un nombre d'étapes assez incroyable, et le chemin est terriblement long. Et dans chacun des domaines, que ce soit pour le procès, pour assister les enfants, ou pour se reconstruire, ou pour lutter contre l'occupation américaine, c'est à chaque fois des combats très longs, avec beaucoup, beaucoup d'étapes et d'énormes difficultés, puisque votre famille a payé très cher cette lutte, toutes ces luttes.
Quand j'étais dans la résistance, ce dont on rêvait, c'est qu'après la guerre, c'est le bonheur, c'est la liberté de notre peuple. Ma mère, ses dernières paroles, c'était toujours « Gars, quand la paix revient, on va retrouver notre vie normale d'antan. Je peux m'occuper de mes grands-parents, etc. » Mais je voudrais vous parler un peu des dernières minutes de ma mère, parce qu'elle était, présidente de l'Union des femmes de la libération, quand même. Elle était portée disparue. Et pendant plus de 30 ans, j'étais à sa recherche. Et puis, il y a le livre de du journaliste Bernard Folle. Et puis après, maintenant, un autre journaliste français qui a assisté au tribunal d'opinion de Bertrand Russell. Et c'était un Américain qui a parlé à Bertrand Russell qu'il a torturé une femme par électricité pendant 3 heures. La femme n'a rien dit. Puis après, moi, je l'ai retrouvée ensevelie vivante, quoi. Pour vous dire que la guerre est atroce, pour vous dire que quand je pense au dernier moment de ma mère, je peux pas. Mon cœur est. Même maintenant, quand je vous parle, mon cœur est serré, parce que je ne peux pas imaginer les dernières minutes d'une personne qui regardait les tortionnaires, ceux qui et puis après qu'il a enseveli comme ça. Je peux pas m'imaginer, mais c'était ma mère. Alors c'est pour ça que je veux plus que ça se reproduise pour les autres, avec les autres aussi. Voilà. Alors c'est pour ça aussi que bien sûr je peux vous dire qu'on est quand même déçus de ce qui arrive. Mais moi, je ne suis pas de nature de rester comme ça à me fâcher, à me mettre en colère. C'est pour ça que, bon, je peux rien faire vis-à-vis par rapport à la politique. Alors, je fais ce que je peux faire. Alors, quand j'étais directrice d'école, moi, je m'efforçais d'être une bonne rectrice. Alors, c'est pour ça que je peux vous dire avec fierté que même maintenant, mes anciens élèves qui ont aujourd'hui plus de 50 ans, 60 ans, mais ils m'appellent toujours maman. Et puis après ma retraite, par exemple, alors, bon, mais je suis encore vivante, je suis encore en vie, je ne peux pas rester là à dire que mon gouvernement est mauvais, est mal, ça concerne les autres, les dirigeants, de diriger le pays pour que le sang qui a coulé ne coule pas inutilement, quoi. Mais moi, je m'engage pour ce combat, pour demander justice aux victimes, à ceux qui ne peuvent plus parler, à ceux qui ne peuvent pas parler. Et c'est comme ça que mes dernières années, je les consacre à demander justice. Je fais ce qu'une personne, un être humain peut faire pour notre peuple, pour notre pays, pour le serment, la promesse que j'ai fait devant le peuple, quoi. Voilà.
Ben, c'est une déclaration magnifique. Donc là, vous attendez la suite. On attend tous la suite de ce procès. Il y a eu une marche organisée à Paris le mois dernier aussi en faveur de. C'était sur un rassemblement de soutien à votre combat, en fait.
Oui, il y a un rassemblement le 4 mai avant l'appel, et il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour me soutenir. Et si vous savez que quand j'ai commencé le procès, j'étais toute seule. Quand j'ai commencé, quand on dit personne ne savait ce que c'est que l'agent orange, alors que
les gens ne connaissaient pas, voilà, ne connaissaient même pas ce mot-là en fait.
Oui. Alors qu'après 10 ans, tout le monde était, je dis pas, les 300, 400 personnes qui étaient là, c'était pas tout, parce que dans le monde entier, tout le monde maintenant, là, quand on parle de l'agent orange, mais on sait ce que c'est, et on sait aussi que l'agent orange est comme l'ancêtre des pesticides d'aujourd'hui. Donc notre combat maintenant devient la base, notre combat pour l'écocide, pour l'environnement. Et c'est comme ça que, même maintenant, si on me demande d'arrêter, je n'arrêterai pas, parce que je suivrai ce que j'ai commencé jusqu'à la fin, même si la fin, c'est la fin de ma vie, mais aussi pour être à côté de ces autres combats, comme le combat de la chlordécone, par exemple, le combat contre les pesticides. Donc, maintenant, on est beaucoup plus fort, quoi. Beaucoup plus fort. Et puis, il n'y a pas que le combat pour contre l'agent orange. Il y a le combat contre les autres pesticides. Et il faut se rassembler, il faut s'unir pour qu'on soit plus fort, de plus en plus fort, pour que justice soit rendue aux victimes de la guerre chimique. Et là, c'est pour ça que notre devise actuelle, avant, on a dit qu'il y a la patience, courage et espoir. Et puis maintenant, on ajoute encore détermination. On est bien déterminé d'aller jusqu'au bout de notre combat pour que justice soit rendue non seulement à Chen Tongan et ses enfants, mais que justice soit rendue à toutes les victimes de l'agent orange, non seulement du Vietnam et puis dans d'autres pays aussi, parce que les victimes, les anciens soldats américains qui étaient revenus, qui revenaient du Vietnam, qui étaient devenus victimes, ils ont reçu des dédommagements, mais les enfants non. Leurs enfants, leur progéniture n'ont pas reçu les dédommagements. Même les soldats vietnamiens qui étaient dans leur rang n'avaient pas reçu les dédommagements. N'empêche qu'ils sont aussi victimes. Donc, je ne me bats pas uniquement pour les victimes de l'agent orange du Vietnam, mais aussi pour les victimes du monde entier, quoi. Voilà.
Alors, il faut expliquer une chose, c'est que, effectivement, donc, il y avait eu des petites... il y a 40 000 vétérans américains qui avaient reçu des indemnités. Alors, 40 000 sur beaucoup plus de vétérans. Ils avaient reçu entre 250 $ et 12 000 dollars. C'est pas très impressionnant. Et il y a un procès qui avait été intenté à New York en 2005, et la cour avait rejeté la plainte, déclarant que l'agent orange n'était pas un poison au regard du droit international, et qu'il n'y a donc pas d'interdiction d'utiliser un herbicide. C'est assez ahurissant. Surtout quand on se rappelle de Seveso ou de Bhopal, ces accidents industriels qui utilisaient, qui ont produit de la dioxine. Donc à Seveso, bon, ça c'était en Europe, où il y a eu, on a dû abattre 77 000 têtes de bétail. En Inde, à Bhopal en 84, on a quand même plus de 300 000 victimes qui ont souffert d'handicap passager ou définitif. Donc on voit bien que ces herbicides, ces pesticides, sont des poisons terriblement puissants. En Inde, il y a quand même 3828 morts à Bhopal. C'est assez incroyable. Et il y a encore 30 personnes qui meurent par mois en Inde de cette catastrophe de Bhopal. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme l'agent orange. C'est jamais fini. En fait, il y a toujours cette pollution est là, cette contamination, et qui se transmet, et qui peut se transmettre aux enfants avec des malformations, etc.
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Jamais un criminel a le courage de reconnaître leur crime. Jamais ceux qui sont fautifs n'auraient le courage de reconnaître leur faute. Mais nier l'évidence, c'est plaider coupable, quoi. Parce que de plus en plus, nous avons des recherches, nous avons des documents qui prouvent leur crime, quoi. qui prouvent les séquelles de ce qui est de leur production. Donc ils peuvent mentir, ils peuvent faire des mensonges comme ils l'ont fait lors des deux audiences au tribunal. Ils peuvent m'insulter, mais ils peuvent pas mais l'image, par exemple l'image de l'avion qui de l'avion de Rensch, oui, de l'avion qui laissait derrière l'avion le nuage. Cette photo, cette image-là est partout dans le monde entier. Comment ils peuvent nier ça? Donc, nier l'évidence, c'est plaider coupable. Pour moi, c'est comme ça. Et plus ils prolongent notre procès, plus je gagne. Parce que, avec le temps, dans le monde entier, ferait connaissance encore de plus en plus les crimes de la guerre chimique, surtout qu'aujourd'hui, les pesticides ravagent et tuent dans plusieurs pays, tuent même aux États-Unis, vous voyez. Donc, s'ils veulent jouer contre la montre, s'ils veulent jouer aussi contre ma santé, contre mon âge, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà 83 ans, et j'ai beaucoup de, je porte en moi-même plusieurs pathologies, même s'ils me disent que Madame Tran est comme nous, quoi. Elle est vieille, elle porte des maladies comme les autres. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, parce que c'est normal qu'ils doivent se justifier. Mais vous, si vous êtes à l'audience d'appel, vous verrez que ça a changé. Et si à Évry, ils m'attaquaient, ils étaient très méchants. À l'appel, ils étaient aussi très méchants, mais ils sont à la défensive. Donc, il y a quand même un changement. Et ce changement, ce n'est pas Mme Tran qui l'a fait. C'est la vérité qui a poussé le monde à me soutenir. Me soutenir, soutenir Chen Dong'a. C'est pas soutenir Chen Dong'a, c'est soutenir la vérité, c'est soutenir la cause qu'elle porte. Et cette cause-là est une cause juste et noble, parce que on ne défend pas Chen Dong'a, non. Et je suis bien consciente de ça. On défend la justice, on défend les victimes de l'agent orange, on défend la victime des guerres chimiques. Ouais.
Merci beaucoup, Tran. On va devoir se quitter. Merci beaucoup d'être venu. Là, on n'a vraiment plus que 2 minutes. Vous venez signer votre livre demain à Vitry. Et je crois que vous allez être nommée citoyenne d'honneur en septembre. Dans quelle commune?
Il y aura une cérémonie au mois de septembre pour Vinjuif. Mmh. N'empêche que aussi il y a Fleury Mérogy qui m'a aussi fait cet honneur-là.
Merci beaucoup, Tran. À très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir. Oh,
quand nous chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour,